ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du mardi 16 février 2016. Bonjour, ici Maxime Despomerleau. Très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois au micro. On va passer la prochaine heure ensemble. Ça vaut le détour, c'est votre boîte à outils pour contourner les obstacles du handicap. Je vous rappelle que nous sommes en direct tous les lundis, mardis et mercredis dès midi. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter avec le mot-clic CVLD ou @canal_M. Vous pouvez nous soumettre des sujets qui vous touchent ou commenter sur les propos de nos invités. Aujourd'hui à l'émission Tourisme accessible. Cette semaine, on se tourne du côté des musées de la civilisation dans la ville de Québec pour discuter de leur plan d'accessibilité universelle. On en parle avec Aude Borcheda, conseillère en recherche et développement. On reçoit dans nos studios Geneviève Genet, intervenante sociale à l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels. On découvre les mandats et les principaux services de l'organisme. Les universités ont maintenant un guide de référence pour permettre aux professeurs de mieux apprécier et comprendre quelles mesures d'accommodement répondent à quels besoins des étudiants en situation de handicap, que ce soit en contexte de cours ou d'examen. Ce guide a été réalisé sous la direction de Ruth Fillion, professeure au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec en Outaouais et spécialiste de l'adaptation scolaire. On lui parle un peu plus tard dans l'émission. Et depuis 1990, l'Association des sports aveugles du Québec est reconnue officiellement comme l'organisme qui régit les sports de compétition pour aveugles au Québec. Elle est le répondant québécois de l'Association canadienne des sports pour aveugles, l'ACSA. Aujourd'hui, Nathalie Chartrand, directrice, nous fait découvrir la mission de l'organisme et les principaux sports qu'on y pratique. Bonjour, Madame Chartrand.
Bonjour, Maxime.
Oui, donc, tout d'abord, depuis quand est-ce que l'Association des sports pour aveugles du Québec existe-t-elle?
L'Association sportive des aveugles du Québec existe depuis janvier 1979. On a fêté nos 35 ans en 2014.
35 ans, bon, donc vous êtes dans votre 37e année d'activité. Quelle est la mission principale de l'Association sportive?
Bien, au départ... Bien, ça l'est toujours, en fait, c'est de donner la possibilité aux personnes handicapées visuelles de pratiquer une activité sportive de manière sécuritaire, encadrée, et éventuellement, si l'activité ou le sport le permet, de faire des délégations pour se rendre dans les championnats canadiens, puis après ça, bien, aller plus haut si c'est possible.
Est-ce que ça a commencé dès le début à être à organiser, en fait, du sport de niveau de compétition ou c'est venu graduellement?
En fait, je pense que l'association, d'après ce que j'ai compris de son historique, parce que j'étais pas là à l'époque, c'est qu'il y avait... Depuis 1976, l'Association canadienne des sports pour aveugles existe et pour envoyer des délégations à des championnats canadiens, faut qu'il y ait une association provinciale. Donc, il y a des associations provinciales dans chaque province et territoire au Canada. Puis, au départ, c'était, je vous dirais, pour permettre d'avoir un organisme provincial qui envoyait des délégations. Mais on ne peut pas être là juste pour ça, dans le sens que pour avoir des athlètes en haut de la pyramide, il faut qu'il y ait une base extraordinaire à la base. Si on a juste 3 athlètes, mais il en faut peut-être 200 qui pratiquent pour qu'il y en ait 3 qui vont sortir du lot là, puis qui vont se rendre aux Paralympiques.
Donc, ça prend un certain encadrement, ça prend des ressources, du soutien pour développer justement le potentiel de ces athlètes.
Oui, 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 oui. Puis, tout est toujours fait ou pensé pour que ça soit fait de manière sécuritaire, que ça soit pas dangereux, d'apprendre les bons mouvements. Parce qu'au départ, c'est comme n'importe quoi. Tu vas aller courir, si tu cours tout croche, les genoux, tu cours en canard, ben tu vas user tes genoux, tu vas user tes hanches, puis tu vas pas courir longtemps. Fait que si tu as un vrai entraîneur qui te dit « Non, non, gars, rentre tes genoux par en dedans, parce que là, tu cours en canard. » Ou quand tu lances, si tu lances avec ton bras au lieu de lancer avec ton corps, tu vas user ton épaule vite, mm-hmm. puis tu feras pas ton sport très, très longtemps.
Donc, on parle vraiment d'adapter le sport, donc, pour la condition de la personne. Quels sont les principaux sports pour les personnes non-voyantes et malvoyantes?
Que la SAC organise. Nous, oui. on est reconnus, comme vous dites, par le ministère de l'Éducation, comme la Fédération de goalball. Fait que nous, notre premier mandat, c'est vraiment le goalball. Mais...
Est-ce qu'on peut prendre quelques instants pour décrire le sport du goalball?
Oui, le goalball, c'est un sport qui a été inventé après la Deuxième Guerre mondiale. En fait, c'est le ballon qui a été inventé comme moyen de réhabilitation. C'est un ballon qui a gros comme un ballon de basket, mais avec des grelots à l'intérieur. Je ne sais pas si vous êtes capable d'entendre le tintement.
Oui.
Et donc, les gens, c'était pour développer leur ouïe. Fait que les intervenants lançaient le ballon doucement, puis il fallait que les gens disent ils sont bien de la gauche, de la droite, rapidement pour savoir, parce que là, le son, quand il vient plus vite, il faut que tu te déplaces plus vite. Puis les gens habitaient dans des institutions à l'époque, fait que le soir, ils sont mis à utiliser le ballon, puis jouer ensemble, puis ils ont comme inventé le goalball. Fait que c'est le premier sport d'équipe qui a été inventé pour les personnes handicapées visuelles, partielle ou totale. Et ça se joue 3-3 sur les mêmes dimensions qu'un terrain de volleyball. Pour savoir où nous sommes sur le terrain, il y a des bandes adhésives, ben en fait un tape mm-hmm. qui est placé par terre et il y a une petite corde en dessous. Fait qu'avec nos pieds, on sent exactement où on est. Mm-hmm. Et on a des positions déterminées sur le terrain, le joueur de centre, l'ailier gauche et l'ailier droit sont à trois endroits différents, donc il n'y a pas de danger qu'on se rentre dedans. Et le but, c'est de faire rouler le ballon vers l'autre équipe. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le but a 9 mètres de long. C'est le plus grand but au monde, là. Mm-hmm. Ben au monde, de tous les sports.
De tous les sports.
Et on est comme 3 gardiens de but pour essayer d'arrêter ce ballon-là. Et c'est pour ça que les gens doivent être couchés par terre, les bras étendus au-dessus de la tête, la face, la figure cachée en arrière des bras, mm-hmm. pour essayer d'arrêter le ballon. Et pour être sûr que ce soit équitable, évidemment, parce qu'il y a des personnes handicapées visuelles partielles et totales, mm-hmm. tout le monde doit porter un bandeau sur les yeux. Puis c'est ça qui est le fun du goalball, parce que c'est un sport où que c'est... Ça peut être l'intégration à l'envers, c'est-à-dire que les voyants peuvent jouer avec nous. Mm-hmm. Parce que le premier règlement, c'est que tout le monde doit porter un bandeau. Donc, ça, c'est le goalball.
C'est un sport qui a vraiment été créé, donc, et c'est pas comme un sport qu'on adapte. Parce
non.
que je sais, par exemple, qu'il y a le hockey sonore, dont on entend beaucoup parler. Il y a aussi le tennis adapté et le sissi-foot. Je suis assez curieuse de connaître ces sports. Comment on les joue?
Bien, encore une fois, pour le sissi-foot, en fait, le ballon, c'est un ballon de soccer aussi, mais que, encore une fois, il y a comme, on peut l'entendre. Mm-hmm. Le son est un petit est plus il est moins fort que le ballon de goalball. Et ça se joue comme le terrain est comme délimité par un peu comme une bande au hockey. Aux Paralympiques, là, fait que les joueurs savent où ils sont. Et quand ils courent, parce que tout le monde a un bandeau sur les yeux également, quand ils courent, ils disent quelque chose. Comme au restaurant au noir, quand les serveurs se déplacent, ils disent, je me souviens pas ce qu'ils disent, excusez ou tension ou
ils parlent en fait pour décrire leur parcours, donc vers où ils s'en vont ou quelles actions ils exécutent pour que les autres personnes puissent le savoir à ce moment-là.
Non, en fait, ils font juste dire vai. Ils font juste émettre un son pour que les autres autour sachent où ils sont. Et il y a un des entraîneurs qui est derrière le but. Fait que quand les gens s'en viennent vers le but, l'entraîneur va dire « ici, 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 ici ». Et il y a un autre entraîneur sur le côté du terrain qui va décrire ou qui va dire, mettons, où est le ballon quand il n'y a plus personne qui a le ballon, là, mm-hmm. pour qu'il puisse y aller. Et la particularité au six-foot, c'est que les gardiens de but sont voyants.
Pour pouvoir indiquer, pour pouvoir donner des indications aux joueurs sur le terrain.
Non. Si toi, tu es le gardien de but de l'équipe adverse, tu ne vas pas me dire où tu es quand moi, je cours avec le ballon pour essayer de compter un but contre toi, là.
Donc, pourquoi sont-ils voyants?
J'imagine... pourquoi sont voyants? Ben là, je ne l'ai jamais demandé à l'inventeur pourquoi... Non, mais en fait, je pense que c'est pour donner une chance. Puis voyez-vous, comme aux Paralympiques à Londres, la France a été en finale, ils ont fini deuxième. Mais je veux dire, si vous allez sur YouTube puis vous regardez les matchs, les gens, ils courent aussi vite que les voyants. C'est juste que moins de passes qui sont faites, mm-hmm. mais... Le gardien de but a beau être voyant, là, mais ils sont pas plus capables de le pogner, le ballon, là.
Bon, ben... Ça
donne une chance, là, mais si le voyant n'est pas capable de la pogner, le ballon, je suis pas sûre que si on mettait un non-voyant, que ce serait le fun comme sport, là.
Ça serait définitivement un autre défi, un autre challenge. Madame Chartrand, l'aspect sonore est vraiment quelque chose de très important dans les sports. Et un des défis pour la pratique, c'est de trouver des lieux de pratique qui sont exempts de bruit, comme des gymnases, des locaux de pratique.
Ouais.
Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile?
Oui, c'est sûr que ce soit, même pour le tennis, le blind tennis, là, la petite balle, elle fait aussi, elle est plus grosse, elle est plus lente, puis elle fait du bruit. C'est sûr que ce soit le blind tennis, le soccer ou le goalball, ça se joue dans le silence. Ça se joue dans le silence, c'est tactile pour le terrain, mm-hmm. et les gens doivent se parler. Mais c'est ce qui fait la beauté de la chose, parce qu'on peut le faire. Puis, ben c'est sûr que c'est plus difficile des fois d'avoir un gym, parce que comme pour le goalball, nous, où on le pratique, c'est un gym double. Et malheureusement, on doit louer comme le gym double pour être sûr qu'il n'y a pas personne qui va jouer au basket ou au hockey casam à côté de nous qui va faire plein de bruit.
Tout à fait.
Puis, que c'est ça. Mais, c'est ça. Puis, il y a plein... Ça, c'est adapté ou inventé pour. Puis, tandis que si on fait du ski de fond, du ski alpin, bien là, ça nous prend un guide. Vélo tandem, ça prend un pilote. La course à pied aussi, ça prend un guide. Mm-hmm. Fait qu'il y a plein, plein de manières d'adapter, de rendre accessible des sports qui, au départ, ne devraient pas l'être pour nous. Là.
Il semblerait.
Et pour nous, les personnes handicapées visuelles, c'est des heures et des heures de plaisir parce que la balle de tennis a beau être accessible. 9 fois sur 10, au départ, ben comme les voyants, en fait, tu frappes à côté de la balle. Puis c'est à force de pratiquer, d'écouter,
De s'entraîner, finalement, on va arriver à maîtriser le sport.
Oui, puis de savoir comment que la balle réagit. C'est ça qui est long à comprendre, à déterminer.
Nathalie Chartrand, vous êtes directrice de l'Association sportive pour aveugles du Québec. Merci beaucoup de nous avoir décrit quelques sports pratiqués au sein de votre association. Si on veut plus d'informations, on se rend sur le site sportaveugle.qc.ca. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous. Bonne journée.
En entouré de soi, toutes les raisons d'y croire. Quand si près de moi, les éclats du miroir. Quelques faux pas, quelques regards de travers. Une nuit sans fin nous propulse dans les airs. Des souvenirs en or, projetés en pleine face. Après tant d'efforts, tout refait surface. Loin de ce que je voulais être, mon idéal en vain. Sans toi je ne suis qu'un autre, sans toi je ne suis plus rien. Quand je retombe sur l'album photo, je prie pour aimer à nouveau. Quand je retombe sur l'album photo, je prie pour aimer à
Vincent Dupont avec sa pièce Album Photo, tirée de l'album du même nom, une découverte cette année en 2016. Le nombre d'étudiants en situation de handicap ayant recours à des mesures d'accommodement est passé de 2360 à 9189 au niveau universitaire entre 2005 et 2014. Un nouveau guide est maintenant à la disposition des professeurs pour mieux comprendre les besoins des étudiants et leur offrir le soutien adéquat. Ruth Filion, professeure au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec en Outaouais, a supervisé la réalisation de ce guide. Bonjour, Madame Filion.
Bonjour.
Donc, qu'est-ce qu'on entend tout d'abord par mesure d'accommodement pour un étudiant en situation de handicap?
Il faut savoir que, par définition, un accommodement est un moyen différent d'atteindre un même but. Alors, en contexte universitaire, de plus en plus d'étudiants rencontrent des défis, des obstacles dans leur apprentissage qui sont occasionnés par leur condition, une condition diagnostiquée. Puis c'est pour pallier ces défis qu'on leur offre des mesures d'accommodement.
Et donc, on peut parler d'accommodement à la fois en contexte de cours et en contexte d'examen.
Tout à fait. Si on pense à des exemples en contexte de cours, certains étudiants peuvent avoir besoin de temps additionnel pour effectuer leurs travaux ou encore avoir besoin d'aide à la prise de notes. D'autres ont besoin de pouvoir effectuer une présentation orale plus tôt qu'un travail écrit ou certains, même, c'est l'inverse. Mm-hmm. Puis en contexte d'examen, plusieurs ont besoin de temps supplémentaire, d'un accès à des aides technologiques pour rédiger leur examen, de pouvoir effectuer un examen dans un local distinct. Il y a vraiment une panoplie, une diversité de mesures d'accommodement qui peuvent être offertes.
Et donc, c'est justement cette multiplication des types d'accommodement qui a résulté, en fait, on sentait un besoin de faire un guide pour les regrouper ensemble.
Oui, parce que, en fait, Vous l'avez bien mentionné, il y a une augmentation importante qui est de l'ordre de 300% depuis 2005. Puis le nombre de demandes d'accommodement a aussi donc beaucoup augmenté. Puis les professeurs sont de plus en plus interpellés par les demandes d'accommodement. Puis ils vont questionner la pertinence de certains. Donc c'est vraiment pour ça que en lien avec cette réalité que le guide a été pensé et construit pour les professeurs.
Et Ruth Fillion, vous êtes spécialiste en adaptation scolaire.
Oui.
Vous avez basé le guide sur les réponses d'un questionnaire auquel ont répondu les professeurs et les étudiants. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette étude?
En fait, juste préciser que ce sont deux questionnaires bien différents auxquels ont répondu les étudiants et les professeurs. Il y a une première étude qui visait à faire préciser les mesures d'accommodement répondant le mieux aux défis des étudiants. Et ce qui est sorti, c'est essentiellement que c'est beaucoup plus important d'offrir des mesures d'accommodement en fonction de la condition diagnostiquée, mais pas en fonction des défis qu'ils rencontrent. Ce qui signifie que deux étudiants ayant une même condition, par exemple un étudiant dyslexique, n'auront pas exactement les mêmes besoins. Par ailleurs, en ce qui concerne les professeurs, ils ont été invités à participer à une consultation portant sur les accommodements, plusieurs accommodements, puis ce qui a permis de préciser leurs questionnements, leurs préoccupations, les contraintes qu'ils voyaient par rapport à l'un ou l'autre des accommodements et de proposer, le cas échéant, des alternatives aux accommodements identifiés. Puis c'est à partir de toutes ces composantes-là que le guide a été produit.
Et les accommodements pour les personnes ayant des troubles d'apprentissage sont peut-être ceux qui suscitent le plus de questionnements.
En fait, c'est intéressant. C'est pas seulement les accommodements offerts aux étudiants ayant un trouble d'apprentissage qui suscitent le plus de questionnements. C'est offert à tous ceux qui présentent à première vue une condition, qui ne présentent pas à première vue une condition visible, que ce soit pour les troubles d'apprentissage, le trouble déficitaire d'attention, le trouble de santé mentale. Mais la remise en question vient du fait que les professeurs se préoccupent de l'atteinte des exigences puis des objectifs de cours. Parfois, c'est à juste titre, puis parfois, bien, c'est moins justifié. C'est vraiment là que se situent les questionnements.
Et justement, quel questionnement on peut avoir en ce qui a trait à l'atteinte des objectifs du cours?
Bien, c'est par exemple, un professeur peut se poser la question pourquoi est-ce qu'on devrait permettre ou non une aide technologique pour rédiger des examens. Et puis, il s'avère que les professeurs doivent absolument faire une distinction entre les savoirs disciplinaires et les savoirs transversaux.
Mm-hmm.
Le savoir écrire, pour la plupart d'entre nous, c'est une compétence transversale. On utilise des logiciels quand on écrit nos textes, quand on écrit même des travaux universitaires ou bien des articles et même un courriel. On a des logiciels intégrés qui nous permettent de faire une correction de nos fautes grammaticales ou lexicales.
Mm-hmm.
Donc, dans la majeure partie du temps, le savoir écrire, c'est une compétence qui est vraiment transversale. Là où des fois ça peut poser problème, c'est quand c'est une compétence disciplinaire. Par exemple, un étudiant en sciences de l'éducation qui doit faire la démonstration dans un cours spécifique qui s'est exactement accordé, utiliser la grammaire, faire la démonstration qui peut accompagner ses élèves à bien écrire sans faire de fautes, mais se peut que dans ce contexte, effectivement, il n'y aura pas accès à des mesures d'accommodement.
Mmh.
Il faut vraiment faire cette distinction-là, puis ce guide-là invite les professeurs à faire cette distinction-là avant de poser un jugement sur la validité ou non d'une mesure d'accommodement.
Tout à fait. Donc, votre exemple est éloquent sur l'importance de regarder le besoin de l'étudiant.
Oui.
Est-ce que ces accommodements prennent aussi appui sur un cadre juridique?
Oui, il est important de mentionner que c'est les chartes canadiennes et québécoises des droits et libertés interdisent toute forme de discrimination à l'égard de plusieurs groupes de personnes, dont les étudiants en situation de handicap font partie. Puis ces deux chartes obligent les établissements d'enseignement à ne pas discriminer. Ça, c'est extrêmement important. C'est l'idée de non-discrimination qui est la fin recherchée. Puis l'accommodement, bien, ça représente un des moyens utilisés pour arriver à cette non-discrimination.
Et en terminant, le guide est disponible, du moins à l'Université du Québec en Outaouais. Est-ce qu'il est disponible dans tout le réseau des universités du Québec?
Oui, effectivement. Puis il est disponible, c'est un document PDF, hein, disponible sur plusieurs sites, oui, de l'Université du Québec en Outaouais, sur le site du consortium d'animation sur la persévérance en enseignement supérieur et sur le site web. Je suis allée vérifier tantôt, puis dès qu'on tape guide accommodement étudiant en situation de handicap, on tombe directement dessus. Donc, il s'avère être très, très disponible et c'est ce qu'on souhaite.
Il est disponible gratuitement.
Oui.
Est-ce que des enseignants au niveau collégial, par exemple, ou même au niveau secondaire, peuvent s'en inspirer?
Bien, certainement, parce que au niveau secondaire, ça dit aux enseignants quel accommodement auront droit ou comment, dans la poursuite de leurs études, ce qui est offert au secondaire pourrait aussi être offert à l'université. Puis au niveau collégial, moi, j'ai eu des rétroactions comme quoi certains collèges souhaitaient le mettre disponible sur leur site de manière à ce que les professeurs, les enseignants du cégep, des collèges puissent y avoir accès pour être dans cette même réflexion. Parce que les accommodements doivent être aussi offerts à tous les ordres d'enseignement. Et je pense qu'effectivement, surtout pour le post-secondaire, collège ou université, on est vraiment dans une même logique et les accommodements se ressemblent beaucoup.
Et justement, les accommodements, c'est dans une idée d'équilibre entre l'accessibilité, l'inclusion sociale, les exigences académiques. C'est une très belle initiative.
Moi, je pense que oui. C'est un signe que les universités s'inscrivent de plus en plus dans une logique d'une éducation inclusive qui permet à un plus grand nombre d'étudiants de pouvoir effectuer des études dans un domaine qui leur convient, de participer pleinement à la société, d'exploiter leur plein potentiel. Et que, oui, tout à fait, c'est un très bon signe.
Merci beaucoup. Ruth Filion, vous êtes professeure au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec en Outaouais et spécialiste de l'adaptation scolaire. Vous avez supervisé la réalisation du guide de référence des mesures d'accommodement pouvant être offertes aux étudiants en situation de handicap en contexte universitaire. Mais vous l'avez démontré, on peut aussi l'utiliser dans d'autres cadres scolaires. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ça fut un plaisir.
Sur les ondes du canal M, vous écoutez Ça vaut le détour avec Maxime D. Pomerlo.
Toujours à Ça vaut le détour, suivez-nous sur Twitter avec le mot-clé CVLD ou @canal barre de soulignement M. On continue avec une première chronique. L'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels est un organisme provincial de services qui existe depuis 35 ans. Elle a été fondée en 1980 et pour les parents d'enfants ayant une déficience visuelle. Pour nous parler de la mission de l'organisme, j'accueille en studio Mme Geneviève Genet, intervenante à l'AQPEHV. Je l'ai bien dit.
Oui, exactement. Ce qu'on appelle communément l'ACPEV.
L'ACPEV.
Oui. Donc, moi, je suis intervenante accueil et soutien à l'ACPEV. Et puis, vous l'avez bien dit, l'ACPEV existe depuis 35 ans. Donc, on a fêté le 35e anniversaire là, en 2015. Puis, présentement, on regroupe environ 225 parents qui sont membres dans les différentes régions du Québec.
Et donc, c'est une fondation, comme on le disait, qui a été créée par et pour les parents.
Oui.
Donc, c'est vraiment une initiative de parents qui ont choisi de se regrouper.
Oui.
C'était dans quel objectif?
Au départ, c'était un objectif de défense des droits que l'organisme a été fondé. Puis c'est vraiment une association et non une fondation. Donc, au départ, c'était beaucoup pour la défense des droits. Puis c'est devenu, à travers les années, plus autour des années 2000, un organisme de service. Donc...
Quel service vous offrez à ce moment-là?
Ben, avant de parler peut-être des services, je vais vous nommer la mission.
Oui.
La mission qui est justement à la base de regrouper les parents d'enfants 0-21 ans ayant une déficience visuelle, comme on a dit, sur tout le territoire du Québec, mais c'est aussi de favoriser les échanges et le partage d'expériences entre eux. On veut également offrir à ces parents des services qui sont complémentaires aux services offerts au secteur public et favoriser la concertation de tous les groupes intéressés à la déficience visuelle, donc entre les organismes du milieu également. On veut aussi promouvoir par nos différents services l'intégration sociale des enfants qui ont une déficience visuelle. Ça, c'est vraiment au cœur de notre mission. Donc, c'est vraiment le but ultime.
Oui, et justement, avec, avec les différents axes, finalement, que vous avez évoqués, il y a toutefois des services plus précis pour développer ces axes-là.
Exactement. Donc, on va commencer d'abord avec notre service d'aide, soutien et référence, auquel je réponds comme intervenante accueil et soutien. En fait, je suis intervenante sociale, donc je suis là à l'écoute des besoins des parents. Donc, on a en fait une ligne téléphonique sans frais qui est disponible partout au Québec parce que comme on a un seul bureau situé à Greenfield Park à Longueuil, ça va être davantage l'intervention téléphonique.
Mm-hmm.
Donc, on va répondre aux parents, que ce soit suite à l'annonce du diagnostic pour les accueillir dans cette période difficile-là. On va voir avec eux s'ils connaissent déjà les services ou si vers quels services on peut les référer. Il va y avoir aussi, dans les moments de transition, que ce soit préscolaire, scolaire ou autre, ou finalement, pour toutes sortes d'informations, lorsqu'ils vont rencontrer des difficultés, ils peuvent toujours nous contacter à l'ACPEV.
Puis, il y a justement ce service d'aide et de soutien. Il y a des activités familiales qui s'adressent principalement aux parents, mais aussi, elles sont regroupées en catégories d'âge pour les enfants, par exemple, de 0-12 ans, pour les adolescents, pour les jeunes adultes aussi.
En fait, ce que je voulais dire par 0-12 ans, c'est que nos activités, en fait, c'est la... On a un type d'activité familiale, puis c'est ouvert à tous, mais qui s'adresse spécifiquement, en fait, plus particulièrement aux parents d'enfants 0-12 ans. Ça, c'est en raison de notre projet PASS, qu'on appelle, qui est le Programme d'action communautaire pour les enfants de l'Agence de santé publique du Canada, par laquelle on est financé. Donc, on mise davantage sur ce groupe d'âge-là, mais les activités s'adressent à l'ensemble des parents et autres personnes intéressées par la déficience visuelle.
Justement, ce programme-là particulièrement, qu'est-ce qu'il a de spécial?
Le programme, en fait, c'est ce qui nous permet, nous, de faire nos activités. Donc, à partir de ce programme-là, on va réaliser nos journées d'échange. On a deux journées d'échange par année, généralement une à l'automne, à Longueuil et une à l'hiver à Québec. On va avoir également une rencontre familiale annuelle et une assemblée et l'assemblée générale des membres. La rencontre familiale annuelle, on va se déplacer à chaque année dans différentes régions pour essayer de rejoindre l'ensemble des membres.
Mm-hmm.
On a également, lors des activités familiales, un service de halte garderie, les Petits Soleils, pour les enfants âgés de 0 à 5 ans, qui est supervisé par des éducatrices spécialisées. Et on a également une activité pour les jeunes de 6 ans et plus qui sont accompagnés par les moniteurs du service des loisirs de la Fondation des aveugles du Québec, qui est un de nos collaborateurs. Puis dans les activités des jeunes, en fait, pour les enfants, on inclut la fratrie. Donc, c'est vraiment inclusif comme activité.
Et est-ce que ces activités, est-ce que les familles doivent défrayer des coûts ou c'est offert gratuitement?
Oui, en fait, il y a un coût. Par contre, on essaie d'offrir les forfaits les plus avantageux possibles aux familles. Donc, nos activités se déroulent dans des hôtels, donc ils ont des choix entre des forfaits avec ou sans hébergement. Ils vont avoir un prix global, qui est un prix réduit pour les membres, qui va inclure vraiment toutes les activités pour toute la famille et le repas. Et pour les familles qui sont, qu'on appelle régions éloignées, donc à 300 km et plus du lieu de l'activité, ils vont avoir droit à une nuitée gratuite à l'hôtel.
Donc, c'est vraiment dans le but de permettre le plus de rencontres possibles entre les membres qui sont étalés partout dans le Québec.
Dans les différentes régions.
On parle justement d'activités pour les membres. Donc, comment on fait pour devenir membre de l'ACPEV?
Oui, en fait, pour devenir membre, c'est 10 $ par parent par année pour un parent qui veut devenir membre actif. On peut également devenir membre de soutien, qui est soit un proche, un intervenant ou un ami de la famille ou toute personne qui veut soutenir l'organisme. et les organismes peuvent devenir membres également, c'est 30 $ par organisme. Puis pour le faire, bien, vous pouvez le faire soit par téléphone, par la poste, par Internet également sur notre site.
Vous produisez aussi une revue annuelle?
Oui,
la revue L'Éclaireur.
Oui, la revue L'Éclaireur, qui est une belle revue qui regroupe des témoignages de parents, d'intervenants, des projets aussi de différents organismes. Donc, c'est vraiment un partage de belles expériences. Cette revue-là est produite une fois par année, envoyée vraiment dans tout le réseau, à tous nos membres et dans les centres de réadaptation et les cliniques d'ophtalmologie des hôpitaux.
Donc, dans le but aussi de rejoindre peut-être des nouvelles personnes aussi chaque année.
Oui, exactement.
Et on parlait de différents services offerts aux familles. Il y a, oui, entre autres, des groupes d'entraide pour les parents, notamment dans la région de Montréal, à Longueuil, dans les Laurentides et à Québec.
Oui.
Quels sont exactement ces groupes d'entraide?
C'est vraiment des groupes d'entraide spécifiquement pour les parents. Donc, c'est de l'entraide entre les pères. On a un programme de formation des groupes d'entraide qui fait qu'ils ont 4 à 5 rencontres une première année avec une formatrice qui va leur expliquer c'est quoi le concept de groupe, la confidentialité, d'avoir des thèmes, des sujets précis, mais également d'échanger en toute liberté des fois sur des sujets que les parents ont besoin de s'exprimer. Puis par la suite, le groupe devient autonome. Donc, suite à la première année de formation, le groupe choisit les dates et les lieux de ses rencontres, puis se réunissent entre parents. Puis les groupes sont actifs. Il y en a qui sont vraiment actifs depuis plusieurs années. Donc, les gens créent des beaux liens d'amitié.
Et justement, ces groupes d'entraide, je vous souhaitais en démarrer un nouveau en Outaouais dès que possible.
Oui,
il y a exactement des ressources sur place dans la région?
Dans la région de l'Outaouais, on collabore avec le Centre de réadaptation La Ressource. On a une intervenante qui collabore beaucoup avec nous là-bas. On a des parents membres aussi qui tiennent à s'impliquer. Une maman, entre autres, qui veut beaucoup qu'on démarre un groupe dans sa région. Il y a aussi la PHVO, l'Association des personnes handicapées visuelles de l'Outaouais, qui collabore avec nous dans ce sens-là. Donc, il y a certaines ressources, mais on aimerait démarrer quand même un groupe pour les parents parce qu'il y a un besoin à ce niveau-là.
Et justement, il y a des groupes d'entraide, un réseau d'échange et d'entraide pour des jumelages, pour des activités précises.
Oui.
Mais il y a aussi d'autres activités. Par exemple, vous êtes présent, il y a un salon maternité-paternité-enfant chaque année à la Place Bonaventure à Montréal. D'autres événements ponctuels comme ceux-là. Qu'est-ce que vous apportez? C'est quoi votre couleur à ce moment-là?
Oui, mais en fait, au salon maternité-paternité-enfant, par exemple, on tient notre kiosque à chaque année dans la section Le Carrefour, les petits conseils de l'Agence de la santé publique du Canada, avec laquelle on a notre programme PASS. Donc, ça nous permet de sensibiliser et d'informer les gens. Et à chaque année, ça nous permet de rejoindre au moins une ou deux nouvelles familles qui nous trouvent sur place, ou qui viennent même nous rencontrer parce qu'ils ont vu qu'on était présent dans la liste des exposants. Donc, ça nous permet, oui, d'informer le grand public en général qu'on existe, qu'il y a des services en déficience visuelle. On remet également des ballons avec le logo de l'ACPEV à tous les enfants qu'on rencontre. Donc, les gens apprécient beaucoup.
Et il y a d'autres salons aussi auxquels vous participez.
Oui, et entre autres, le salon Technovision d'INCA, qui est un organisme pour les personnes qui vivent une perte de vision. Donc, on rencontre plusieurs personnes du milieu, des intervenants, etc. On est aussi présent à au moins une rencontre parents-enseignants en début d'année de l'école Jacques Ouellette, qui est la seule école spécialisée en déficience visuelle au Québec. Donc, on va informer les parents sur nos services et activités.
Est-ce qu'il y en a beaucoup qui vous découvrent dans votre présence dans différents événements ou on va plutôt vous référer, par exemple, avec un C3S de notre région?
C'est beaucoup plus des gens qui nous découvrent dans des événements ou que ce soit sur Internet. Oui.
Donc, il y a vraiment des besoins que vous aidez finalement à combler ou vous servez de ressources de référence.
Oui, exactement. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, encore aujourd'hui, qui ressortent avec un diagnostic et qui ne savent pas vers quelles ressources se tourner souvent. Donc, ils vont faire des recherches et nous trouver sur Internet.
Votre prochaine activité prévue, c'est la 36e rencontre familiale annuelle et l'Assemblée générale annuelle.
Oui.
en juin prochain. Si on, justement, si on veut un peu plus d'informations, si ça nous intéresse peut-être de nous impliquer à l'association, comment on fait?
Vous pouvez nous contacter. En fait, vous pouvez me joindre à l'association au numéro de téléphone qui est le 450-465-7225 dans la région de la Montérégie. Sinon, ailleurs, sans frais, partout au Québec, c'est le 1-888-849-8729, le 1-888-849-8729. Vous pouvez aussi me joindre par courriel à accueil, donc A-C-C-U-E-I-L, à commercial, A-Q-P-E-H-V.qc.ca. Vous pouvez visiter notre site Internet au www.aqphv.qc.ca.
Et sinon, il y a aussi, pour les adeptes des réseaux sociaux, la page Facebook aussi, où vous publiez toutes vos activités.
Oui, exactement.
Geneviève Genet, vous êtes intervenante accueil et soutien à l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels, l'ACPEV. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci.
On va se retrouver dans un mois pour un autre sujet.
Merci.
Cette langue est très mélodique, mais c'est un peu triste. Vous n'y comprenez rien, vous n'êtes qu'un touriste. Et toutes vos photos sont floues, même celles où vous posiez debout devant ce très beau monument, dans le soleil couchant. Télévision, un homme de 40 ans aurait trouvé un corbeau blanc sans trop savoir comment annoncer aux informations deux ou trois mots à la radio et sur Internet une tempête d'images, un faisceau. Le vrai, le faux se touche dans le noir, car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. La place brouille de monde. Vous arrêtez une seconde, nous ne sommes que des fourmis, et la réalité est plus dure, et la réalité est moins pure que sur des brochures que l'on distribue à l'entrée. Plusieurs fois vous hésitez, le vrai, le faux se touche dans le noir, car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. Le vrai, le faux se touche dans le noir. Des histoires, et du matin au soir, nous écoutons des histoires, sans savoir ce qu'il faut croire. C'est dans la machine, c'est dans votre tête, parfois tout est si flou. Nous racontons des histoires, et du matin au soir, nous écoutons des histoires. Fermez les yeux pour voir, une pensée se promène. Ici allume une lampe, tout contre votre temps. Le vrai, le faux se touche dans le noir, car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. Le vrai, examine un souvenir et l'on peut se dire, l'as-tu vécu, l'as-tu rêvé, avais-tu les yeux ouverts, avais-tu les yeux fermés, l'as-tu vécu, l'as-tu rêvé, avais-tu les yeux ouverts, avais-tu les yeux fermés, le vrai. Le vrai, le faux.
Le vrai, le faux de Jérôme Minière, tiré de son album du même nom, paru en 2010. On termine notre émission en se tournant vers la ville de Québec, où les musées de la civilisation ont à cœur l'accessibilité de leurs collections pour les personnes en situation de handicap. Lorsqu'on parle des musées de la civilisation, on inclut le musée de l'Amérique francophone, le musée de la Place Royale, la maison historique du Chevalier et bien sûr le musée de la civilisation de Québec, où l'on joint Mme Aude Porceda, conseillère en recherche et développement. Bonjour Mme Porceda.
Bonjour, ça va bien?
Oui, merci. Donc, l'accessibilité universelle constitue vraiment une priorité pour les musées de la civilisation. Vos actions et services en matière d'accessibilité universelle se basent sur une politique ou sur des actions? Comment ça se passe?
Oui, en fait, le musée est très préoccupé par l'accessibilité universelle depuis sa création. On a créé une politique en 2011 pour encadrer le plan d'action qui est demandé en fait par l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées du Québec. Et cette politique, en fait, elle propose une vision qui fait qu'on essaye d'être le plus accessible à l'ensemble des personnes ayant des déficiences. Et puis, après, on met un plan d'action en place pour justement le concrétiser, cette vision. Cette politique, elle est en vigueur depuis 2011. Donc, elle est vraiment pensée dans la perspective du développement durable, en fait. Bon, c'est comme ça qu'on l'avait imaginé, pour penser au bien-être de toutes les personnes, de toutes les générations, en préservant et en leur donnant accès à tous les milieux de vie dans lesquels, bien sûr, ils vivent et aussi qu'ils côtoient. Donc, toutes les personnes, que ce soit des employés ou fournisseurs et visiteurs, ont un rôle à jouer dans notre projet, en fait. Le but, c'est vraiment d'optimiser les retombées sociales pour les personnes ayant des incapacités.
L'accessibilité commence par l'architecture.
Ouais.
Est-ce que tous vos musées sont accessibles aux personnes à mobilité réduite?
Malheureusement, non, parce qu'en fait, on a des bâtiments qui sont patrimoniaux et on n'a pas trop le droit de toucher au niveau de l'architecture. Par contre, c'est pas accessible, par exemple, à certains types de handicap physique, comme pour la maison Chevalier. Mm-hmm. Ça, elle est vraiment pas accessible. C'est sûr que si on faisait des activités pour les personnes malentendantes, etc., ou les personnes qui ont des déficiences intellectuelles, dans ces cas-là, on peut concevoir quelque chose. Pour ce qui est du musée de l'Amérique francophone, le musée de la civilisation de Québec et le musée de la Place Royale, ils sont partiellement accessibles. Donc, c'est relativement facile de venir nous visiter, en fait.
Justement, parlez-nous des moyens d'accueil pour les personnes qui vivent avec une déficience physique, auditive, visuelle et intellectuelle.
Pour les déficiences physiques, on a vraiment des choses très de base, des fauteuils roulants, des bancs portatifs pour aussi se reposer. On a mis des poussettes pour les mamans, en fait.
Mm-hmm.
Il y a l'accès au restaurant et à l'auditorium. Vous voyez, là, par exemple, l'exposition « C'est notre histoire », elle a été pensée en termes de design pour faciliter l'accès aux personnes physiques qui ont des incapacités physiques. Aussi, actuellement, on a notre architecte et nos designers qui vont suivre une formation pour aménager le design, etc., le hall, parce qu'on essaye constamment d'adapter nos lieux. Bien sûr, il y a des toilettes accessibles, tout ce genre de choses. On a des ascenseurs qui permettent aussi de monter aux étages.
Mm-hmm.
Pour ce qui est auditif, on a l'accueil téléphonique, le service de relais Bell pour les malentendants, donc ça, c'est pas mal. Pour ce qui est des visites, on a un iPod, on a des visites sur iPod et puis aussi parcours LSQ, enfin sur le parcours LSQ et sur iPod,
okay,
pour visiter le temps des Québécois. Puis on a des amplificateurs sonores, ça c'est une super information, parce que souvent les personnes malentendantes, elles n'arrivent pas à aller au cinéma, à entendre, et nous on accueille les films du CLAP dans les auditoriums Roland Arplin, et donc il suffit de demander des amplificateurs sonores et comme ça vous pourrez aller au cinéma au musée de la civilisation, voir les derniers films qui sont sortis au CLAP.
Mm-hmm.
Et puis même assister à la chapelle du musée d'Amérique francophone, à tous les événements comme poésie, chansons, conférences, projections, etc., de théâtre, et on vous fournit ces appareils et vous pouvez assister à tout.
Donc c'est vraiment au-delà de seulement présenter des collections, c'est vraiment rendre accessibles différentes activités aussi qui se trouvent,
ouais,
dans les musées.
Oui, c'est le contenu en fait, toutes nos thématiques en fait qu'on décline à travers nos collections et puis à travers des thèmes en fait sont accessibles.
Vous avez aussi des visites éducatives spécialisées.
Oui, en fait, on a un service une direction de la médiation éducative, culturelle et éducative. Donc là, on a des guides animateurs, et donc il suffit de les contacter. Et puis on va faire, en général, on fait du cas par cas. On a des activités qui se font de manière récurrente, mais on a aussi des groupes qui nous contactent et qui nous demandent ben, est-ce qu'on pourrait organiser une activité avec des enfants autistes. Et puis on s'arrange avec les personnes pour essayer de monter les projets au cas par cas. Il y a vraiment beaucoup de volonté de la part de notre équipe de répondre à, de faire du sur-mesure en fait.
Donc c'est vraiment du sur-mesure à la fois pour des visites de groupe, mais aussi pour des visites individuelles.
C'est ça. Nos guides sont très sensibles. Ils demandent d'être formés plus au niveau des déficiences intellectuelles. Donc on travaille avec le service de la formation pour leur fournir cette expertise.
Est-ce que vous avez justement des partenaires dans la ville de Québec, des organismes qui vous amènent cette expertise-là pour les formations?
On a l'IRDPQ qui nous aide pas mal. On est aussi, on a un projet de laboratoire vivant avec le centre, avec l'Université Laval, le CIRIS. J'arrive jamais à retenir leur nom, mais on a aussi le Europe 03 et on est en partenariat aussi avec le RTC, la ville de Québec. On travaille tous ensemble justement avec les chercheurs de l'Université Laval, du CIRIS, pour justement se partager des expertises, se former. Puis il y a bien sûr la Fondation des Sourds, il y a plusieurs en fait associations et organismes en fonction du type de projet qu'on va faire qui sont interpellés. On travaille beaucoup en partenariat en fait.
C'est vraiment intéressant et d'entendre ça. Vous avez aussi une politique de gratuité.
Oui. Ouais, ça l'est. Souvent, les gens, on a fait un café création justement pour consulter la communauté des personnes ayant des incapacités. Et on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas au courant de ce qu'on offrait et qu'on était vraiment gratuit. Il faudrait nous rendre le musée accessible et gratuit. Et nous, on a dit, ben, c'est gratuit. Donc, c'est gratuit pour l'ensemble des personnes et leurs accompagnateurs. Donc, on a aussi on a adhéré à la vignette VATL. Mm-hmm. Mais vu que notre politique, de toute façon, on dit que la personne avec son accompagnateur peut rentrer gratuitement pour visiter les expositions. La vignette, si vous l'avez, c'est bien. Et puis, si vous ne l'avez pas, vous avez quand même la gratuité.
Donc, ça permet aussi à des touristes non québécois, donc qui n'auraient pas la vignette, de se présenter en tout temps et d'avoir accès aux activités.
Exactement.
Et c'est vraiment dans une optique d'inclusion et de participation sociale que cette politique de gratuité a été mise en place.
Oui, oui, oui. On est vraiment dans cette dynamique. On est vraiment un musée inclusif qui veut vraiment faire en sorte que chaque visiteur se sente bien en fait et puis soit impliqué, engagé dans ce qu'on va faire. On travaille beaucoup avec la communauté pour justement créer des projets, soit par eux, soit avec eux, etc. Avec la Fondation Louise Brissette, on a ces enfants qui viennent chaque année faire une pièce de théâtre. C'est vraiment intéressant. On a la troupe Gang de rue aussi qui vient faire des shows ici. On a même une résidence de chercheurs qui a proposé de la danse-thérapie. Mm-hmm. On a plein de choses. On a eu la Chambre Noire qui faisait vivre un parcours littéraire dans le noir. Donc on a des contes à jouer pour les enfants, justement. On peut justement jouer avec lire des contes avec un handicap visuel et du langage. On a même eu une table ronde qui a abordé la question des personnes autistes et des relations amoureuses. Vous voyez, on est vraiment dans la grande diversité de la culture. Puis nous, ce qu'on a envie de dire en fait, c'est qu'on est très très ouvert et puis qu'il faut nous contacter, venir nous visiter, et puis même contacter moi, et puis on verra tout ce qui est possible de faire ensemble. En fait, tout est possible. Tout est possible.
Vous avez aussi un programme de gratuité pour les organismes. Comment ça fonctionne?
Oui, alors pour les organismes, on a ce qu'on appelle l'accréditation. En fait, il suffit de nous appeler, soit d'aller sur le site web du Musée de la Civilisation. Il y a un onglet accessibilité sur le site web, il faut cliquer là-dessus. Puis à la fin de la page, il y a tout ce qui est accréditation. Sinon, on a aussi, vous appelez les renseignements et ils vous expliqueront comment soit remplir cette fiche par Internet, soit le faire directement par téléphone. Et donc, les organismes remplissent ce formulaire et en fait, ensuite, ils peuvent rentrer gratuitement avec des groupes. Par exemple, l'an dernier, on a accueilli 54 groupes de personnes qui sont venues visiter de manière autonome. 18 ont bénéficié d'activités avec un guide animateur. Mm-hmm. Et en tout, ça fait 280 participants, jeunes à aînés, qui ont fait des activités, des activités au Musée de la Civilisation.
Donc, c'est vraiment... vous incluez aussi, mis à part cette optique de médiation culturelle, vraiment une mission sociale au sein des Musées de la Civilisation.
Ouais, il y a beaucoup de personnes au musée, quel que soit le niveau hiérarchique, qui ont qui ont à vivre des incapacités. Et donc, c'est vraiment une préoccupation depuis le début. Et on est vraiment centré sur la personne. C'est la mission du musée. Hein. On est centré sur l'être humain. Donc, toutes nos actions sont dirigées vers les individus.
Merci beaucoup, Aude Porceda, conseillère en recherche et développement du Musée de la civilisation de Québec, de nous avoir parlé de toute cette optique d'accessibilité universelle dans votre réseau. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'est ce qui met fin à notre émission aujourd'hui. Je remercie mes invités, Aude Porceda du Musée de la civilisation de Québec, Geneviève Genet de l'ACPEV, Ruth Filion de l'Université du Québec en Outaouais et Nathalie Chartrand de l'ASAC, l'Association des sports pour aveugles du Québec. Je remercie aussi mon équipe technique à la recherche et aux médias sociaux, Christiane Campagna, à la mise en onde, Jean-Sébastien Laliberté. C'était Maxime Despomerleau pour Ça vaut le détour. À bientôt.